de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Salut Audrey, officiellement.
Salut Max.
On se fait un petit open mic aujourd'hui avec une invitée qu'on connaît bien, à qui on aime toujours jaser.
Annie Boilard, qui est spécialiste RH pour Annie RH. On se parle de sujets en lien avec l'actualité reliée au monde du travail, en fait. Puis ça me fait rire parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on traite sans expert, en chialant, à peu près chaque semaine, dans toutes les radios qui n'existent pas au Québec.
Parce le tramway! Le troisième lien!
La compétence de certains des gestionnaires à différents niveaux, souvent. Okay. Nous, on va juger ce qui est plus politique. Mais la liste des erreurs commises par des gestionnaires, tout domaine confondu, est très, très longue, on va se le dire. Des fois, on jase ici pour jaser, puis on se demande pourquoi il y a certains gestionnaires qui n'arrivent pas aux mêmes conclusions que nous autres, qui sont pourtant si évidentes dans nos têtes. Tu sais, au Québec, au Canada, on peut penser à SACLIC, on peut penser au système de paix fédérale Phoenix. Récemment, tous les déboires en lien avec le logiciel QRAM, il y en a plein d'exemples, ça pleut. Et la question qu'on se pense, c'est pourquoi des gestionnaires prennent autant de mauvaises décisions. Parce que c'est leur job d'en prendre des bonnes, normalement.
Oui.
Et Annie Boilard, ben, elle est bien placée pour nous en parler de ce sujet-là.
Donc,
Annie, bon matin.
Oh, j'ai laissé quelque chose ouvert. Là, on va aller fermer ça. C'est quelqu'un à l'Assemblée nationale. Salut, Annie.
Bonjour, Maxime. Okay, bonjour, Audrey.
Tout va bien.
Salut. Donc, pourquoi on prend autant des mauvaises décisions, les gestionnaires au Québec?
C'est sûr que c'est une grosse question, entendons-nous. Mais ce qui est sympathique comme angle de discussion aujourd'hui, c'est se parler du principe de Peter. En anglais, c'est « the Peter Principle ». Et ça donne un éclairage là-dessus. Ça vient remettre en question la façon dont on choisit les gestionnaires, les critères utilisés pour promouvoir les gens. Et là, c'est sympathique d'en parler aujourd'hui parce que en début d'année 2026, le magazine The Economist vient tout juste de publier une étude qui a été conduite dans les dernières années par plusieurs universités, dont le MIT puis Yale, auprès de, je pense, c'est 50 000 personnes qui ont été impliquées là-dedans. Et le but de cette étude-là, c'était de valider ou d'invalider le fameux principe de Peter, que je vous expliquerai dans quelques secondes. Et là, l'étude l'a reconfirmé. Fait que, ça remet la question en avant la conversation.
Puis c'est quoi, justement, le principe de Peter pour les gens, mettons, qui nous écoutent?
En quelques mots, là, c'est que les gens vont toujours être promus jusqu'à ce qu'ils atteignent leur point d'incompétence. Quand on y pense, on se dit, ben c'est vrai, hein? Alors, tout ça émane, là, écoute, je vous ramène dans le temps. En 1969, il y a un bouquin qui a été écrit de Peter Principle, et c'est ce que ça remettait en cause. Bon, il faut dire que ce bouquin-là, il y a beaucoup à dire, mais c'était à la fois, il y avait de la documentation scientifique, mais aussi, il y avait beaucoup de critique, il y avait beaucoup d'histoires cocasses, c'est une vraie satire, plutôt une satire par rapport au monde du travail. À l'époque, le bouquin avait été soumis à 10 maisons d'édition avant de finalement en trouver une qui allait l'accepter. Mais aujourd'hui, c'est connu à travers le monde, cette histoire-là. Puis tu sais, je voudrais, il y a un petit peu de nous autres là-dedans, parce que Peter, il est Canadien. Puis l'idée du principe de Peter, elle aurait émané dans un théâtre à Vancouver. Fait qu'un petit peu de nous autres là-dedans.
C'est drôle parce qu'on peut vraiment le transposer au monde du sport. Je trouve que ça image bien. Tu sais, un joueur peut être super dominant quand il est jeune à tous les niveaux. Puis là, il monte. Puis là, il est repêché. Puis là, il passe par la Ligue américaine. Puis là, il y en a qui vont continuer d'exceller dans la Ligue nationale. Mais il y en a qui vont éventuellement frapper leur mur. Puis, ouais, finalement, t'as essayé la Ligue nationale, c'est la Ligue américaine qui est à place. Ben, c'est la même affaire dans le monde du travail où tu montes les échelons, puis à un moment donné, t'arrives à un niveau supérieur, tu te rends compte que, ouais, j'ai pas le talent, les compétences
Mais
pour être là.
Ma question, moi, est là. Pourquoi les gens sont pas capables de connaître leurs limites de compétences? Tu sais, moi, Annie, j'ai bien des aspirations dans la vie, là. Mais j'ai la prétention de dire que dans la job que je fais, je sais quand même où j'excelle et où je n'excelle pas. Puis je ne ferais pas exprès d'aller me mettre dans une position pour prouver que j'ai un poste plus, je sais pas, moi, qui rayonne plus aux yeux des autres. Je vais être poche, puis je vais me tirer dans le pied.
Ben, tu vois, ça, Audrey, tu le vois, il y a des gens qui sont dans une situation professionnelle où ils veulent poursuivre leur parcours, ils veulent évoluer, avoir de nouvelles responsabilités, puis accroître améliorer leur situation financière aussi, ils veulent des augmentations salariales. Et là, le seul chemin qui se présente à eux, c'est de devenir gestionnaire. Fait que ça devient attrayant, puis c'est pour ça qu'ils tombent dans le panneau. Puis Exactement comme l'histoire du support de Maxime. Disons qu'on est ensemble, puis qu'on gère une équipe, là, puis qu'il faut qu'on choisisse quelqu'un pour devenir le boss de l'équipe. Bon, on n'est pas niaiseux, on va pas prendre le pire de la gang, un peu comme l'exemple de sport. On va toujours prendre le meilleur en se disant, ben, avec un peu de chance, ça va bien fonctionner. Puis ce qui fait que la personne est meilleure, elle va partager son expertise, tout le monde va apprendre.
Oui.
C'est souvent ça l'idée. Mais le problème, c'est que quand on devient, quand il y a un changement de métier, OK, je vais l'expliquer, OK. Disons, là, on est ensemble, il y a de la radio autour de nous. Imaginons un animateur radio junior, OK, on va le promouvoir animateur radio intermédiaire, senior. Jusqu'à là, il n'y en a pas de problème parce que c'est le même métier. Mais la journée où on décide ensemble de dire, OK, toi, tu es excellent à la radio, donc on va te mettre boss des animateurs radio, c'est là que ça ne fonctionne plus parce que ce métier-là requiert d'autres compétences. Ça requiert des habiletés d'être capable de prendre des décisions, des habiletés relationnelles, ça prend des compétences en gestion, mobilisation d'équipe. Ça nous amène ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est que les entreprises, un peu comme tu disais, Audrey, c'est attrayant pour l'employé, puis c'est attrayant pour l'entreprise aussi de promouvoir la meilleure personne, parce que c'est une façon de la fidéliser, de la retenir. Comme on disait, tout le monde veut une augmentation salariale, un plus beau titre. Donc, tout le monde semble être content. Puis c'est là qu'on se trouve le gros problème, c'est qu'on vient priver l'équipe de son meilleur technicien. Là, tu sais, tantôt, je vous ai raconté, je vous ai dit des animateurs radio, mais j'aurais dit des mécaniciens dans un garage, des architectes, c'est la même chose, là. Ouais. On prive l'équipe de son meilleur joueur, puis on vient y imposer souvent un piètre gestionnaire. Puis si vous me permettez, là, je reviens à l'article tantôt dont on parlait de The Economist. Dans la même étude, ils ont fait deux validations. Ils sont allés se dire, qu'est-ce que ça ferait si, au lieu de prendre la meilleure personne technique pour devenir le boss, on allait chercher n'importe qui au hasard. Fait qu'ils ont pris des groupes, ils les ont séparés en deux. Puis pour des groupes, ils ont choisi un gestionnaire au hasard dans l'équipe. Puis là, je vais vous dire le résultat. Puis moi, j'avais vraiment eu le souffle coupé quand j'ai vu ça. Ils ont eu des meilleures performances en gestion avec des gestionnaires choisis aléatoires, au hasard, que de prendre la meilleure personne technique puis de la promouvoir gestionnaire. C'est quand même impressionnant comme résultat.
C'est-tu un peu une mauvaise culture au Québec, peut-être même à travers le monde, là, de se dire on va prendre le meilleur, puis on va garder l'idée des animateurs radio là, pour que ça reste bien simple. On va prendre le meilleur animateur pour le mettre gestionnaire, alors que c'est pas le même job pantoute, comme tu le dis. Gestionnaire, ça devrait pas être une job en tant que tel. Puis un gestionnaire radio, ben ça serait pas nécessairement un animateur radio. Puis un gestionnaire pourrait être un gestionnaire radio comme il pourrait être un gestionnaire en santé ou en éducation. On devrait pas faire cette part-là des choses, de dire c'est pas de même ça marche, là, que comme tu dis, tu l'appelles le technicien, je pense, là, qui devient automatiquement un bon gestionnaire.
Oui. Alors, puis c'est intéressant ce que tu nommes, Max. Parce qu'il y a eu, une mode par rapport à ça. Si on se retourne il y a quelques années, on disait ça, on disait « heureux les gestionnaires qui ne connaissent pas le métier de leurs employés parce que ça va les protéger de rentrer dans la technicalité du travail puis ça va les forcer à rester dans leur responsabilité de gestion. » Bon, ça a duré un temps, puis c'est un petit peu ce que tu nommes. L'enjeu, c'est que les sondages nous indiquent clairement que les gens veulent des gestionnaires qui connaissent leur métier.
Ben oui.
Audrey a dit, ben, pour ça, faire une grande étude, moi, j'aurais pas pu le dire au début. C'est ça. Parce que, par exemple, moi, je suis nulle en mécanique. Si demain, je deviens gestionnaire d'une équipe de mécaniciens, en théorie, ça devrait fonctionner. Mais en pratique, c'est parce que les mécaniciens, ils veulent apprendre de leur boss. Si moi, je comprends même pas la différence entre une clé et un marteau, on va me dire, ben là, tasse-toi de là. Avec raison. Donc, c'est un peu, Maxime, ce qu'on cherche, là, c'est la solution entre les deux. C'est qu'on sait qu'on ne veut pas prendre quelqu'un qui est néophyte dans le domaine où exerce l'équipe, parce que mon exemple de mécanicien, ça fait pas crédible pour l'équipe. Et de l'autre côté, on ne veut pas nécessairement prendre la meilleure personne, tu disais le technicien, là, la meilleure personne technique pour faire le travail. Ce que font les entreprises, puis ce qu'ils doivent faire, c'est de choisir la meilleure personne en fonction des compétences requises pour gérer une équipe. Ses habiletés de communication, d'influence, de connexion, sa façon de mobiliser l'équipe. Et ça, ça va nous amener quelque part entre les deux, ni le pire, ni le meilleur technique.
Mais sinon, Annie, il n'y aurait pas moyen de prendre un bon gestionnaire, mais qui a un bras droit terrain, par exemple.
Pas fou, ça.
C'est quelqu'un qui est capable de parler de la réalité. Je vais prendre un exemple, parce que depuis tantôt, on parle de radio. Nous autres, ici, on a Steven, on l'appelle récipiendaire de trophée. Là. Steven, là, il gère notre brand Boulevard, Weekend, il est comme DG, si on veut, de la marque. Bien, Steven fait pas de radio en soi. Le pire, c'est qu'il a un grand talent de communicateur, mais pour parler des enjeux terrain, bien, dans les dernières années, il y a une Véronique Bergeron, qui est ma co-animatrice dans le retour avec Denis Gravel, qui s'est joint comme bras droit à Steven pour la gestion de l'équipe, parce qu'elle a littéralement le pied dans la porte de l'animation, puis le pied dans la porte de la gestion. Fait qu'elle est capable de faire un peu le ballon des deux. Tu sais, je me dis peut-être que ça pourrait être une autre option qui peut être intéressante.
Oui, il y a trois options qui se présentent aux entreprises. La première, tu sais, c'est exactement ce que tu disais, Audrey, c'est de se dire, ben moi, je serais pas bonne comme, par exemple, gestionnaire, là, j'invente. Audrey, tu l'as pas dit, mais disons que c'était le cas. C'est de leur offrir une voie de progression qui va être de mettre un métier technique, c'est-à-dire des titres, une augmentation salariale, mais à titre d'expert technique et non pas comme gestionnaire d'équipe. Ils peuvent être gestionnaires de projet, mais pas d'équipe. Ça, c'est une voie. Ce que tu nommes tantôt, avoir un bras droit, oui, absolument. L'autre option, c'est de développer les habiletés de gestion des gestionnaires, mais qui sont souvent des gens de terrain. Fait que ton exemple, tantôt, tu disais Véronique, ta collègue. L'autre option, c'est de dire on va promouvoir Véronique comme gestionnaire, par exemple, des marques et qui va être le DG, mais on va lui donner du support pour qu'elle apprenne à gérer l'équipe. Donc, c'est comme les deux côtés, les médailles, différents côtés de différentes médailles.
Ouais, oui.
Toi, ce que tu nommes, c'est qu'on prend déjà un gestionnaire, donc des gens qui ont des compétences, et on lui donne un bras droit pour connaître le terrain. Ça fonctionne aussi. Des fois, à long terme, ce qui se passe, c'est que là, on paye deux salaires. Quand tu peux avoir tout dans la tête d'une seule personne, tu viens faire des économies au niveau de ta masse salariale.
Ouais, ben là, rendu là, je pense que c'est ça. Tout est une question. C'est drôle parce que souvent, on dirait que sur exactement ce que tu viens de dire, Annie, là, il y a deux façons de penser. On dirait que le patronat, je vais l'appeler comme ça, va avoir tendance à vouloir économiser des sous et donc essayer de mettre le moins de staff possible puis une personne à la tête, par exemple, de tout ça. Mais d'un autre côté, t'entends souvent le discours de, ben oui, mais c'est pas mieux de débourser un peu plus, mais t'investis dans l'efficacité de ton équipe, par exemple. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment propre à chaque entreprise, là. Mais je trouve ça intéressant. Il y a deux questions qui me viennent en tête parce qu'on a parlé tantôt des grands. Hein. Ça clique, le système Phoenix dans le temps, là, les déboires du logiciel Curam. Toutes ces grosses affaires-là là, sur lesquelles on s'est planté, mettons, dans les dernières années, là. Pourquoi les signaux d'alerte interne sont ignorés? Parce que souvent après ça, quand on s'en va en enquête, quand on essaie de décortiquer tout ça, il y a tout le temps des gens qui lèvent la main pour dire « ben, c'était prévisible, tu sais ».
Ça nous attriste toujours. Puis c'est un grand principe. On espérait là, que ça soit intégré dans nos organisations. C'est toujours « écoute ton monde, écoute les gens qui font le métier au quotidien ». Cesse, gestionnaire, de penser que tu sais, puis de gérer dans ta tour d'ivoire. Sors, puis écoute ton monde. Les gens qui savaient, là, les gens qui avaient des drapeaux dans toutes ces histoires-là, c'est des gens qui voyaient passer les factures, c'est qui voyaient l'évolution du système informatique. Ces gens-là l'avaient, la connaissance, mais manifestement, du moins c'est ce que j'ai compris, il n'y avait pas d'oreille pour écouter leurs propos, il n'y avait pas d'appétit, il n'y avait pas d'intérêt pour ce qu'ils avaient à dire. Puis ça, tout domaine confondu, tout le monde gagne à la fois responsabiliser, c'est-à-dire laisse les gens qui font le travail prendre les décisions en lien avec le travail. T'es qui, toi, tu sais, dans ta tour d'ivoire pour décider c'est quel fournisseur ou qu'est-ce que la personne va faire? Laisse les gens qui connaissent le terrain prendre les décisions sur le choix des fournisseurs, des clients. Fais confiance à ton monde. Laisse-leur du pouvoir pour décider. Déjà, ça va aider. Puis l'autre chose, c'est intéresse-toi à leurs propos. Puis là, Audrey, on pourrait en parler longuement parce que ce qui se passe, c'est que le propos des gens qui sont sur le terrain paraît un petit peu désintéressant pour les gens dans le haut de leur tour d'ivoire parce que là, c'est très technique. Fait qu'il nous manque des connexions, Puis là, les gens, c'est comme, ça m'énerve avec ça. Moi, j'aime parler de stratégie, de grandes orientations. Donc, il faut que les gens se forcent. Puis l'inverse est aussi vrai. Les gens sur le terrain, là, quand on leur parle de grandes planifications stratégiques, des fois, ils décrochent. je trouve ça très spacieux, très nuageux, très abstrait.
Mais c'est qu'on dirait...
Il faut créer ces passerelles-là.
On dirait que des fois, l'envie et le besoin de mener un projet à terme devient plus fort que de le faire comme du monde.
Oui, quand il y a des objectifs en plus, c'est ça. Puis là, quand on rajoute là-dessus des bonus sur la performance et l'atteinte des objectifs qui sont des projets, alors qu'on sait que souvent, les meilleures pratiques en matière de rémunération variable, donc les bonus, là, c'est de reconnaître à la fois comment on fait le travail et le travail qui est fait lui-même. Donc, comment on fait le travail, on va parler ici du respect des valeurs, de la mission, de l'identité de l'ADN de l'entreprise. Donc, beaucoup les relations entre les gens. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a atteint? Ça, c'est les résultats. Mais quand on débalance ça, puis qu'on met juste la loupe sur qu'est-ce qu'on a atteint, puis qu'on va payer la rémunération variable sur est-ce qu'on a signé le contrat, est-ce qu'on a fait ça, est-ce qu'on a fait ça, c'est là que des fois ça dérape parce qu'on perd la partie de comment on travaille et la richesse, la réponse de ce que tu cherchais tantôt, comment les éviter, c'est le comment on travaille ensemble, comment on s'écoute, comment on prend le temps de collaborer ensemble.
Annie, la dernière question que j'ai pour toi, elle est très simple. Pourquoi c'est tellement difficile pour un gestionnaire d'admettre qu'il s'est trompé?
Mais ça devrait pas être le cas. 2026, on invite les gens à être authentiques, les gestionnaires, à reconnaître leurs erreurs, mais souvent, c'est une question de crédibilité, il y a de l'ego là-dedans, il y a souvent la peur d'avoir l'air faible ou la peur d'être réprimandé. Plus on est dans le système public, moi, ma perception, c'est que quand il y a des erreurs, là, ça devient médiatisé, que ça devient encore plus impressionnant. Dans les entreprises privées, bien, il y a peu d'intérêt là, pour des petites bavures qui peuvent se passer au quotidien. Donc, c'est difficile, mais il faut que les gestionnaires apprennent à passer à travers ça parce que s'ils veulent que les employés soient authentiques, honnêtes, s'ils veulent que les gens le disent quand ils commettent des bavures, bien, il faut qu'eux-mêmes le fassent. Puis là, Audrey, je dirais, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent, il y a des gestionnaires qui se disent, ben oui, je le fais, moi, quand je fais des erreurs, je le dis à mon équipe. Ah oui? Ah oui, tu le dis? C'est quand la dernière fois que tu l'as dit? On est en mars, là, depuis Noël, en trois mois.
On
jase,
là.
On jase, là. Il n'y a personne de parfait. Tout le monde a fait au moins quelques bavures ou une conversation qui n'a pas été abordée dans l'angle qui aurait dû être abordée, des mots qui n'ont pas été bien choisis. En trois mois, là, on a tous le temps d'en faire une qu'on va se dire « c'était peut-être pas ma meilleure ». Aux gestionnaires qui nous écoutent et qui se disent « moi, je le dis à mon équipe quand je fais des erreurs, ouais, ben, tu serais supposé avoir annoncé quelque chose dans les trois derniers mois. Tu es supposé avoir fait une rencontre avec ton équipe, avoir nommé ton apprentissage, l'avoir aussi dévoilé à ton patron. C'est ça, là. Donc, c'est concret. C'est pas juste sur la philosophie, mais on devrait le voir dans l'action.
Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, toujours le fun. Un gros merci. Puis, d'après moi, on va trouver une autre excuse pour s'en reparler bientôt.
Toujours plaisir.
Salut
Bonne journée
Annie.
À vous deux.
À Salut prochaine. Annie, merci. Toujours le fun avec Annie Boilard du réseau Annie RH.
Mais je trouve ça intéressant parce que combien de fois, tu sais, des fois, je ne sais pas vous autres le matin, Max, mais dans Gravel en retour, nous, on jase, mettons, d'une décision prise à la ville ou d'une façon de communiquer l'information de la Ville de Québec. Puis à trois, on est capable de faire un plan de match puis un plan de communication pas mal plus efficace que ce qui sort en réalité. Puis on se dit, voyons, on n'est pas Einstein, nous autres, là. On jase pour jaser, puis on arrive à trouver des affaires assez simples. Fait que pourquoi, dans les décisions qui sont prises avec des professionnels qui travaillent pour prendre ces décisions-là, ça sort tout croche ou ça marche pas ou le résultat est boboche, tu sais? Puis on n'est même pas capable d'avouer que ça s'est mal fait. Tu sais, souvent, on la pose, la question, à nos politiciens. Là, on l'a encore posé au maire Marchand hier, là. Qu'est-ce qui est mal fait?
Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Oui. Non, il l'a fait une fois hier, je pense.
Écoute, je suis rendu que j'ai compte, ça me...
En tout cas, toujours le fun avec Annie. Puis oui, en effet, on est des bons gérants d'estrade, mais des fois, on se dit, caline, il me semble qu'on se pose des questions. Là, on comprend peut-être un petit peu mieux certains éléments.